Donc, j'espère que tout le monde entend. Ça va bien sur le Zoom? Tout le monde entend bien? Ça va? Bon, super. On va pouvoir commencer donc cette cinquième session du séminaire. Ça commence déjà à faire une belle masse d'informations qu'on cumule. Moi, je travaille beaucoup en ce moment pour essayer de voir comment la synthèse va pouvoir s'organiser. Il y a une matière énorme. Mais ça commence à prendre bien. Il y a des maillages qui sont, il y a des petits éclairages qui sont intéressants aussi. Je pense qu'il va falloir faire beaucoup aussi de travail après, hors littérature orale, parce qu'il y a aussi tout un travail théorique à faire, bien sûr, sur le côté genre qu'on va être obligé de travailler. Hein. Voilà. Tu veux que je ressente comme ça, c'est ça? Voilà, ça marche. Voilà, donc oui, les espaces se cumulent, et aujourd'hui, on va travailler donc sur le ATU 425. Donc, qui est intitulé dans l'armée Thompson Eros et Psyché. Hein? C'est vraiment un titre qui est très, très particulier. Hein? C'est un titre qui vient d'Apulée. Mais vous trouverez ce titre-là la plupart du temps que chez Apulée. Ailleurs, ça n'a pas du tout cette connotation. Hein? Ça, c'est vraiment un espace qui est vraiment propre à un écrit. Donc, Apulée, deuxième siècle, hein? Avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, pardon, un avocat, un grand rhéteur, quelqu'un qui a vraiment une maîtrise de la parole, voilà, et qui a une grande, grande érudition sur tous les textes grecs et latins. Il écrit indifféremment en grec ou en latin, d'ailleurs, ça ne lui pose aucun problème. Voilà. Donc, quelqu'un qui récupère de la littérature orale qu'il a entendue, hein, ça aujourd'hui on le démontre très bien, qui part sur des espaces très particuliers, pour en faire un récit qui est quasi un récit philosophique et un récit que certains considèrent quasi hermétique, hein, qui ramène au mythe aussi d'Isis, qui ramène au mythe. Quand on connaît bien le travail qu'il y a derrière, on commence à voir un petit peu que ce n'est pas un simple texte, ce n'est pas un simple roman, c'est beaucoup plus que ça, hein, au niveau du travail qu'il a pu lui proposer. Donc, ça, c'est la version qu'il a plus connue, en fin de compte. Hein, sur le plan des gens qui travaillent en littérature, c'est souvent la seule qu'ils connaissent. Hein. Voilà. C'est bien rare que. Après, il y en a une deuxième qui est beaucoup plus connue, bien sûr, c'est La Belle et la Bête. Hein, donc, La Belle et la Bête, bien sûr, elle est très connue parce que très récupérée par Walt Disney, mais donc Cocteau, avec un travail cinématographique qui est très, très particulier. Donc, ça, bon, on s'y arrêtera pas trop dessus pour nous parce que c'est les deux éléments les plus connus, même si, bien sûr, après, je pense qu'il y a d'autres interventions qui vont. Moi, je ne m'y arrêterai pas trop, en tous les cas. Bon. Et puis il y a plusieurs milliers de versions connues du 425. D'accord? Donc pareil, hein, qui vont de Scandinavie en Asie et qui traversent tous les cadres un petit peu géographiques, beaucoup moins en Afrique. Pas un conte qui a été très, très, très récupéré en Afrique, sauf dans le Maghreb, il y a une version dans le Maghreb qui existe. Voilà. Le grand chercheur qui a fait une monographie s'appelle donc Swan, donc Swahn. Voilà, donc lui, il y a passé en
Pourquoi on n'entend
1957,
rien?
vraiment une
Pardon,
grosse
je
monographie,
suis.
on va dire, hein, de ce genre, et il considère qu'il y a 13 sous-types. C'est-à-dire que bon, il y a du A, il y a du B, il y a Savage Coel, voilà. Donc, on s'aperçoit que, bien sûr, le conte, il n'est pas toujours articulé exactement de la même façon et qu'on peut avoir des choses très, très différentes. Donc, on s'aperçoit qu'il y a toujours, par contre, la stabilité entre la relation d'un couple, et c'est souvent quand même, dans toutes les versions, ça commence bizarrement par un mariage. C'est rare qu'un conte commence par un mariage, il finit par un mariage. Là, il finira par un remariage, d'une certaine façon, mais il y a tout un cheminement où il y a un loupé au départ. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un espace là qui est à travailler peut-être pour nous aussi dans cette considération. Voilà. Il y a toujours cette puissance qu'on va retrouver, ça c'est plutôt les gens qui travaillent en psy qui vont nous le dire, mais de la pulsion de mort et de la pulsion de vie qui est là en permanence. C'est-à-dire que comment quelque part ce conte nous raconte aussi, ben oui, ces deux contraintes qu'on a en nous-mêmes tout le temps, hein, de pulsion de vie, pulsion de mort. Donc, de temps en temps, c'est Psyché qui est plutôt du côté de la pulsion de vie, de temps en temps, il est dans la pulsion de mort, dans certaines versions. On sent qu'il y a des rôles inversés. Et puis, le thème aujourd'hui qui était là aussi pour moi très important, c'est de revoir un petit peu comment ces contes sont en relation au mythe. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien sûr que tous les contes qu'on a vus jusqu'à présent, on en a un peu parlé, moi on ne s'est pas trop arrêté, sont en relation avec des grandes figures mythiques, hein, voire cosmiques, voire. Et on s'aperçoit bien sûr que Eros et Psyché ne dérogent pas à la règle, hein, et même peut-être est beaucoup plus important au niveau de ce qu'ils nous proposent comme écho, comme résonance. Et on retombe ce qu'on avait vu sur le troisième séminaire avec Bernard Sergent, qui parlait de l'inversion du mythe, vous vous rappelez ? C'est-à-dire que comment, quelque part, dans certains contes, on inverse la logique d'un mythe pour arriver à travailler là-dessus, hein, à travailler nos propres diffusions, on va dire, du mythe. Voilà. Donc, moi, je me suis arrêté sur Eros et Psyché, j'ai dit que je ne m'y attarderai pas. La Belle et la Bête non plus. Je me suis plutôt arrêté sur deux contes qui, moi, me permettent peut-être d'avoir une analyse plus générale sur la globalité. Le Roi des Corbeaux, qui est un conte de Gascogne magnifique, hein, qui est tout à fait, mais qui est très parlant. Et Muscambre. Alors, je ne sais pas si c'est un conte ou c'est une version que vous connaissez, hein, une version grecque, voilà, qui est tout à fait intéressante aussi, puisque là, on rentre dans quelque chose qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas une jeune fille qui va être importé dans un autre pays pour se marier. Hein, bon, vous rappelez, je pense que vous connaissez tous la version d'Apulée, hein, c'est une très belle jeune fille qui ne peut pas se marier, donc on va la mettre sur un rocher, venir la chercher, et puis elle se retrouve avec Eros qui était là normalement pour la punir, et puis Eros tombe amoureux d'elle et il y a tout un cheminement qui se met en route. Là, c'est le contraire, c'est une jeune fille qui ne veut pas se marier toujours. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas se marier, comme dans Apulée, pas se marier parce qu'elle est trop belle. Et que même Aphrodite est jalouse d'elle, donc elle demande à son fils de la punir. Là, non, c'est vraiment, elle ne veut pas se marier, trop pas d'homme à son goût. Voilà. Et donc, elle va demander à son père de lui fournir de la farine, du sucre, tous les ingrédients, hein, et en même temps, du musc et de l'ambre. Donc, muscambre, d'accord ? Pour se fabriquer elle-même son époux. Elle dit comme ça, je la ferai à mon goût. Donc il y a tout un élément, on verra que cette résonance elle est intéressante parce qu'elle va nous amener à d'autres contextes avec le mythe, hein, pour ça que je m'y attarde. Donc bah, oui, elle va y arriver, donc ce n'est pas simple, hein. Il y a souvent beaucoup de versions où il y a même l'ange qui vient, donc on fait venir vraiment les forces extérieures pour que cette pâte, au bout de 40 jours, de travail et de pratique spirituelle puisse se mettre à vivre. Alors, déjà, pour moi, il y a un récit qui se met en résonance, mythique. Lequel ? Allez, on va faire de la révision. Pygmalion. Vous avez déjà Pygmalion qui, quelque part, mais là, on va voir que c'est très différent de Pygmalion, parce que Pygmalion, lui, travaille dans le marbre, une matière extrêmement dure. Là, elle va construire un homme à partir d'éléments qui sont des éléments du quotidien. La farine, le sucre, voilà. Et en même temps, le côté odeur, hein, le côté parfum, l'ambre et le musc. Hein. Donc, quand on regarde ça, on peut déjà comparer à un mythe qui est très, très intéressant, ce que fait très bien d'ailleurs Anna Angelopoulou. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame, il y a vraiment beaucoup de choses à voir avec elle, parce qu'elle est à la fois psychanalyste et anthropologue. Voilà, elle a beaucoup travaillé sur ce muscan.
Non, mais ça va, je
t'as pas de son.
Si.
Vous pouvez couper vos micros au niveau du Zoom, parce qu'on le reçoit ici. Voilà. Donc, elle a quelque part donc fait une comparaison entre Muscabre et le mythe d'Adonis. Donc, Adonis, vous vous rappelez, le mythe, hein, c'est une fille qui est. Qui ne veut pas se marier aussi, bizarrement. Donc là, on a dans les deux cas une princesse qui ne veut pas se marier. Voilà. Donc il y en a une qui décide de fabriquer donc un personnage, un époux, à son goût. Et l'autre, elle est condamnée par Aphrodite à commettre l'inceste avec son père. Donc de tomber amoureuse de son père. Vous voyez déjà l'opposition. Hein. Mais intéressant. Parce que là, de l'autre côté, vous avez le père qui amène tous les éléments à sa fille. Et quand on commence à travailler symboliquement sur les deux, on sent très bien que le père, il n'est pas neutre non plus, et que quelque part, voilà, le mari est-il un mari, est-il un fils, est-il un époux ? C'est très confus selon les versions. Donc, on ne sait plus trop où on en est au niveau, mais on sent très bien que l'inceste est quand même extrêmement important. Hein. Donc, quelque part, l'inceste va se commettre, mais à l'insu du père, dans la version d'Adonis, dans le mythe d'Adonis. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte, en fin de compte, que son père ne se rende pas compte du tout. Donc, vous retournerez voir l'histoire, on n'aura pas le temps de la traiter dans le détail. Alors que là, vraiment, on est vraiment dans la fabrication avec le père qui va chercher les éléments. Il y a une domestique qui se met en travail avec elle pour lui envoyer tout ce qu'il faut. Donc, il y a vraiment une connexion sur cet espace-là. Hein. Voilà. Donc, après, ben, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, elle va accoucher seule du fils de son père, mais elle va devenir, avant d'accoucher, la fameuse myrrhe, élément odoriférant, parfumé par excellence. Et de l'autre côté, vous avez bien tous les éléments de la fabrication du parfum qui sont aussi extrêmement importants, le titre même, hein, musc, ambre, voilà, en tant que tel qui est là. Donc on sent bien que là, il y a déjà un parallèle extrêmement important. Hein, voilà. Donc, elle va se délivrer dans la nature, donc de l'autre côté, elle garde jalousement sa production dans le palais. Hein. Dans la version que j'ai là de Muscambre, en fin de compte, c'est le père qui va dire, mais il faut que quelque part, il se socialise, ton époux, là, il faut que tu le mettes dehors. Un peu. Donc, il se met devant le palais, il observe, il rentre et en fin de compte, il se fait enlever par une autre jeune femme qui tombe amoureuse de cette production. Hein. Voilà. Donc là, par contre, dans le mythe de d'Adonis, hein, oui, c'est ça, Aphrodite s'éprend de lui, elle confie ce fils, donc elle tombe amoureuse de l'enfant de Myrrhe, et elle le confie à Perséphone. Vous voyez que déjà, on a une liaison pareille. Hein, et Perséphone, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va le garder dans un autre monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? La jeune fille, en fin de compte, va l'amener dans un autre monde. On est bien dans des parallèles, quelque part, qui se mettent en place. Hein. Donc, Aphrodite va demander l'intervention de Zeus pour régler la problématique. Hein, parce que, et Zeus va lui accorder, en fin de compte, qu'elle le verra, qu'Adonis vivra avec elle les deux tiers, en fin de compte, du temps. Donc, il sera partiellement dans le monde souterrain, avec Perséphone, et puis il repartira de temps en temps avec Aphrodite. Voilà. Et donc là, nous, on a tout le chemin qui va se faire, par contre, pour retrouver ce chemin-là, donc le classique, hein, que vous connaissez tous, qu'on retrouve dans toutes les versions, en fin de compte, qui est le voyage initiatique de la jeune fille, hein, qu'on retrouve aussi chez Apulée, qui est magnifique. Apulée, là, il fait une référence permanente au mythe sur ce voyage-là, en fin de compte, hein, qui est très, 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 très importante. Hein. Voilà, et donc à la fin, ils reviennent, dans la version donc, de Muscambre, ils reviennent pour vivre ensemble en tant que tels. Hein. Et là, par contre, on sait très bien qu'Adonis meurt à la fin, tué par un sanglier. Hein, voilà. Donc on est vraiment sur des choses qui sont à la fois différentes, inversées, mais on sent très bien qu'on a les mêmes structures, les mêmes logiques, des références communes et beaucoup de références inversées, d'une certaine façon. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, le conteur avait ce privilège, en fin de compte, de saisir les éléments du mythe, mais de jouer en même temps avec ce mythe pour, des fois, inverser même les règles sociétales. Pas les inverser pour en faire une idéologie, mais inverser pour re-questionner ces règles-là. Et ça, pour nous, c'est un sujet qui est important, c'est de se rendre compte que les mythes étant des lieux d'énonciation d'archétypes extrêmement puissants. On va jouer avec les inversions pour les re-questionner, ces archétypes profonds. Et donc, pour moi, c'est là où je considère que le mythe en tant que tel est un lieu plutôt dogmatique dans une société. C'est-à-dire qu'on impose souvent des figures pour que la société s'organise et que le conteur est celui qui va se servir de ces références en les inversant, en les troublant, pour en faire des lieux de médiation, pour en faire des lieux de questionnement. Voilà. Et à l'inverse de ce que pensent beaucoup de personnes, pour moi, le conte merveilleux est un lieu qui ouvre des perspectives, qui ne les ferme pas. Et là, c'est là où, quelque part, on a nous, une vision qui est beaucoup trop posée sur des récits qui sont stéréotypés et qu'on ne voit pas en tant que tel. Voilà. Donc, le roi des corbeaux, c'est pareil. On est sur des figures qui vont être aussi très, très, très similaires. Et puis, plein de références au mythe aussi. Hein. Donc, si vous voulez écouter une très belle version, allez voir Claire Chevalier. Une très très belle version qu'elle raconte avec beaucoup de brio, que j'aime beaucoup. Donc, c'est la version gasconne hein, de Bladé qui est en référence la plupart du temps. Donc là, pareil, on part du principe qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres versions du père qui a trois filles. Hein, donc ça, c'est assez classique, même dans La Belle et la Bête, vous l'avez, hein, cette base. Et là, c'est un corbeau qui vient et qui... donc le père est un père qui est vert, bizarrement, et il a le soleil. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Hein, donc, et le corbeau veut quelque part que sa fille, qu'on lui fournisse une fille pour se marier. Donc, les deux premières vont refuser parce que, en tous les cas, le prétexte qu'elles sont déjà promises à d'autres. Et c'est la jeune fille. Mais au début, le père veut pas la donner, cette jeune fille. Hein, il pense que c'est même pas la peine de lui demander. Et donc, il se fait aveugler par le corbeau. Le corbeau va lui crever son soleil. En tant que tel. Voilà. Et quelque part, la jeune fille va quand même accepter, à condition que le corbeau répare hein, cet élément-là, d'épouser donc le corbeau. Donc là, il y a tout un rituel religieux, il y a le prêtre qui est là, il y a toute l'assemblée des corbeaux qui viennent. Hein, et elle est amenée dans un château voilà, très obscur, où il n'y a pas un chat qui vive. Hein. Souvent, c'est la solitude hein, qui est pointée dans la plupart des versions. Dans ce pays, dans cet autre pays, il n'y a pas de communauté où il y a des voix, mais sans corps. Hein, on est sur des espaces où il y a toujours cet isolement qui est très, très, très flagrant. Hein, en tant que tel. Et le corbeau revient la nuit, hein, se met en position donc quitte sa tenue de corbeau pour devenir un magnifique jeune homme, mais qu'elle ne voit pas, elle n'a pas le droit de le voir. Hein, voilà. Et il va falloir qu'elle reste comme ça pendant 7 ans. Et là, on a encore un élément qui est plutôt du monde chevaleresque, mais on a une épée qui est entre eux pour éviter. Voilà. Elle n'est pas encore prête à être sa femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ils sont là, et ils sont séparés, mais présents. Et si au bout de 7 ans, il lui explique bien, au bout de 7 ans, elle arrive à tenir ces 7 ans en acceptant cette règle du jeu, en fin de compte, il va se retransformer dans une malédiction. Donc là, on est dans le côté du non-voir, grand thème de ce conte-là. Dans certaines versions, dans celle de Miskan, ça n'existe pas, puisque c'est elle qui crée. Mais dans la plupart des versions, il y a cette interdiction de voir. Donc psyché, éros, inconscient, là on est plein dans la problématique qui est posée aussi de cet ordre-là. Voilà. Et donc, bien sûr, elle va sortir, se balader toute seule dans la nature, et un jour, elle trouve une lavandière qui est en train de laver des chemises noires, sales. Et elle ne s'arrête pas de les laver, c'est jamais propre. Et au moment où elle commence à l'aider, les chemises sont propres. Et là, elle lui dit, tu vas souffrir, mais il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Et elle va, bien sûr, transgresser la règle du non-voir, quasi le dernier jour, l'impatience, la pulsion, le côté qui est bien posé en tant que tel, et bien sûr, le corbeau s'en va, et il va être enchaîné, alors là, on retombe encore d'autres mythes, hein, enchaîné sur une île, gardé par des loups, un noir et un blanc. Donc, on voit toutes les résonances qu'on a avec le mythe en permanence, quoi. C'est vraiment des espaces qui sont de cet ordre-là. Et elle va partir, bien sûr, à la recherche de son époux, puisque le thème central de cette série-là, c'est la recherche de l'époux disparu. Hein. Voilà. Donc, on est vraiment sur une recherche avec des éléments magiques que va lui donner. Merci de couper mon micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on est vraiment dans le chemin initiatique, là. Et il va falloir qu'elle trouve une plante, une fleur qui est capable de couper le fer et de chanter hein, et de couper la pierre, hein, là aussi. Donc on est vraiment sur un espace, on en trouve plusieurs qui ne sont pas les bonnes, à la fin elle trouve, elle s'embarque pour aller vers l'île. La fleur qu'elle va trouver lui permet de tuer d'abord le loup blanc, le loup noir, de sauvegarder son mari qui, à ce moment-là, se transforme et récupère son peuple qui s'est retransformé. Donc ce conte-là, pour moi, il est vraiment tout un cheminement intérieur. C'est comme tous les contes merveilleux, pour moi, il ne faut pas le chercher dans le social. C'est tout. C'est vraiment un élément de travail intérieur, initiatique. C'est vraiment toutes les épreuves que quelque part, on peut travailler en relation à ce conte-là. Voilà. Donc, c'est évident que, quelque part, il y a deux possibilités d'arriver dans le conte merveilleux. C'est de le prendre uniquement en tant que texte et puis de le ressentir. Ça, pour moi, c'est toute quelque chose qui peut être très bien. C'est le travail de l'inconscient qui se met en place, du coup, c'est très bien. Mais pour moi, il y a aussi la possibilité de travailler ce qu'il révèle progressivement, ce que font les psychanalystes aujourd'hui avec cette matière-là. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a des déclencheurs? Où est-ce qu'il y a des espaces où les images sont-elles efficientes, en fait? Où est-ce qu'elles nous mettent en route sur un travail intérieur? Donc, c'est évident que le conteur, ce n'est peut-être pas son boulot en tant que tel. C'est peut-être pas lui, il n'a pas à travailler en thérapie, il n'a pas à travailler en médiation. Ce n'est pas son objectif premier, en tous les cas. Lui, il raconte. Mais par contre, moi, je pense que travailler toutes ces figures sous-jacentes, c'est aussi une façon de nourrir son conte. C'est-à-dire que plus on a de matière de cet ordre-là, on ne va pas l'expliquer quand on raconte, mais ça fait travailler le conteur lui-même, et le conteur lui-même devient plus riche dans son expression. Ça me paraît, en tous les cas, une logique possible. Il y en a d'autres qui travaillent plus sur l'instinct. Voilà, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce conte-là? Je regarde le temps parce qu'on a encore du temps. Oui. D'Apulée.
Voilà.
Oui. Mais cet après-midi, je pense que oui, Cléa qui la raconte pourra nous en parler plus clairement.
Ah, si, hein. Tout à fait. Donc, si tu peux le dire aux personnes, parce que nous ne m'entendons pas.
Oui. Voilà. Donc, cet après-midi, Cléa vous racontera son travail sur Apulée.
Hein, voilà. C'est après toi.
Après moi, voilà. Oui. Donc, on a dans le programme, en tous les cas, une façon pour vous de bien comprendre où est Apulée. Hein, voilà. Donc, ça va vous permettre de la trame et le travail qui se fait autour. Hein. Voilà. Ouais, disons que le travail pour moi qui est dans ces versions-là, comment dire, il y a quelque chose qui ramène à ce qu'on travaille en permanence, cette relation, l'animal-animus. Hein. La pulsion, la relation de l'amour, qu'est-ce que ça génère? Le désir qui est quelque part qui est en jeu, tout ça, on est vraiment sur ces forces pulsionnelles qui sont représentées par Psyché et Eros, voilà, mais de façon complètement cryptée, bien sûr. Donc c'est évident que dans la version d'Apulée, par exemple, c'est évident qu'à un moment donné, quand son mari s'en va, elle est tellement la pulsion de mort remonte, elle est désespérée, elle va même se jeter dans une rivière, et la rivière refuse, elle la rejette. Et qui est-ce qu'elle trouve à la sortie? Pan, de la nature. Et donc, on est vraiment en permanence comme ça sur des confrontations pulsionnelles qui sont tout le temps mises en représentation. Je crois que la matière du conte, elle est vraiment à travailler sur l'image. On disait l'image, mais l'image qui provoque quelque chose. Ce n'est pas une image pour décrire. C'est ce qui est important pour moi dans ces matières-là, c'est que le conteur devrait travailler, en tous les cas pour moi, c'est le chemin qui mène à l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion n'est pas descriptive. C'est le résultat d'un cheminement, l'émotion. Et souvent, on ne travaille pas assez, qu'est-ce qui amène à l'émotion? Quelle est la montée en charge? Quels sont les éléments qui sont là pour que l'émotion se déclenche, se transmette, hein? Voilà. Et Apulée, je pense, a très bien compris ça. Il a vraiment un grand talent pour construire des cheminements qui paraissent complètement anodins, voilà, mais qui petit à petit nourrissent et font éclater, à un moment donné, une émotion. Donc c'est aussi une lecture singulière. Pour moi, tous les conteurs ont leur propre chemin. Et c'est ça qui fait la richesse du conte. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est figé. Il y a tellement de versions qu'on se rend bien compte qu'il y a eu autant de conteurs que de versions. Chaque conteur avait son cheminement pour arriver à dire la même chose, en gros, ou pour faire ressentir et travailler la même chose. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus faire du stéréotype quand on travaille sur ces contes-là. C'est là où je fais souvent la différence entre raconteur et conteur. C'est-à-dire le raconteur prend une version et la raconte, et c'est extrêmement important que ça se fasse, ça permet de maintenir le patrimoine, mais pour moi le conteur fait sa version. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas dans son propre cheminement, il a une sincérité qui n'est pas juste. Vous voyez ce que je veux dire ? Travailler avec la parole d'un autre, ce qui n'est pas toujours le bon endroit en tant que tel. Voilà. Donc pour moi, lire les différentes versions, ça permet souvent de trouver des cheminements qui vont nous permettre petit à petit de trouver notre propre cheminement. C'est-à-dire que ce n'est pas cela qu'il faudra raconter obligatoirement, mais ça va ouvrir. C'est des cartographies en fin de compte. Pour faire une métaphore, je dirais, c'est comme quand vous avez la carte IGN et que vous avez préparé une randonnée. Voilà, c'est toutes les versions. Vous allez avoir tous les témoignages de gens qui ont fait ce chemin. Et puis, vous faites, vous, le chemin. Ça sera encore autre chose. Vous allez trouver vous allez voir des choses que les autres n'ont pas vues. Vous allez retrouver des choses que les autres ont vues, etc. Donc, pour moi, le travail d'approche d'un conte, c'est un petit peu ça, un conte merveilleux. D'abord, il faut comprendre la structure. La carte, pour pas trop se perdre, même si se perdre, ce n'est pas inintéressant, ça permet de trouver d'autres cheminements. Et puis après, il faut voir peut-être ce que les autres en ont pensé, en ont vu, en ont dit, et puis après, c'est de faire le chemin soi-même, en tant que tel. Hein. Voilà. Partir toi-même seul sur le chemin, c'est une autre démarche, mais on se prive de la richesse de tout ce qui a déjà été vu. Donc, ça nous permet de c'est-à-dire après, on peut passer à côté de choses essentielles. Autant de démarches possibles, pour moi, ça n'empêche pas. Donc, d'où l'espace des versions extrêmement important. Alors, pour moi, il y a une série de versions qui sont tout à fait intéressantes là-dedans. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Hein. Toujours pareil, édition Corti. Hein. Voilà, c'est des contes de la nuit grecque, donc Anna Angelopoulou, toujours. Et vous avez une autre, je ne l'ai pas là parce que je peux aller le chercher à côté. Il y a toute une monographie que Corti a éditée aussi autour de la bête, hein, donc qui est très très riche aussi avec une bonne cinquantaine, soixantaine de versions disponibles, hein, qui vont de voilà, tu l'as là, donc on va pouvoir le montrer. Voilà. Donc Corti, de toute façon, pour moi, référence. Voilà, donc je vous laisse prendre. On vous les mettra de toute façon en bibliographie. Hein. Voilà. OK. Bon, ça s'appelle Des belles et des bêtes, anthologie des fiancés et animaux. Hein. Ouais. C'est la bête qui téléphone. On ne parle pas assez d'elle. OK. Donc, cette dimension, pour moi, elle est importante aussi parce que là vous avez vraiment autant de conteurs depuis des siècles qui ont fait des chemins. Donc, c'est pas une version, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui ferme, c'est quelque chose qui doit ouvrir. Ils ont simplement des regards autres que le vôtre et ça permet d'ouvrir des horizons que vous n'avez absolument pas vus. Et qui peuvent enrichir du coup, la matière qui va permettre de raconter. On trouve de l'épaisseur. Hein, voilà. Ça, moi, je sais que maintenant, depuis une quarantaine d'années que je vois des conteurs, au bout de 10 minutes, je sais si c'est quelqu'un qui travaille uniquement sur un chemin qu'il a parcouru 3 fois, ou s'il est nourri de tout un contexte et d'autres personnes qui ont fait le chemin. Hein. Ça se sent immédiatement voilà, en tant que tel. Donc la transmission se fait aussi dans ce sens. Voilà. Donc, ben après, pour moi, il y a ce travail d'analyse de ce conte-là qui est extrêmement puissant. Donc, je peux vous dire que le nombre de travaux psycho et autres qui ont été faits dans ce domaine, il y aurait de quoi en faire une bibliographie de plusieurs volumes. C'est vraiment un sujet, bien sûr, qui est essentiel, hein, que de Freud à Jung, ce sont des sujets qu'ils ont travaillés systématiquement, mais tous les autres Lacan aussi. On sent que la référence, elle est systématique chez tous les psychanalystes. Hein, on la retrouve. Voilà. Tout simplement parce qu'on est dans quelque chose qui est essentiel, plus on de vie, plus on de mort, qui fait notre chemin au quotidien, en permanence. Hein, voilà. Donc, ça veut dire que les images qui sont proposées, elles sont riches aussi. C'est-à-dire qu'il faut les prendre après une lecture très lente de chaque version et puis de la regarder. Bon, reprenons par exemple la version Corbeau, puisque personne ne va la traiter aujourd'hui, du roi des corbeaux. Hein. Cette notion déjà des deux filles qui ne veulent pas se aller vers le corbeau en tant que tel. Alors, c'est quoi le corbeau ? Donc là aussi, on dit bien que le symbolique, ça ne sert pas des fois à grand-chose. Pour moi, il est très riche, le symbolique. C'est très intéressant d'y aller profondément. Si vous prenez le corbeau, c'est un être qui va chercher la lumière dans toutes les mythologies. Ce n'est pas l'objet noir. Voilà. Nous, on le voit comme charognard. En Inde, on le voit comme épurateur. Et c'est la même fonction. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on commence à multiplier ces images-là, on s'aperçoit que la proposition, elle n'est pas lue au bon endroit pour les deux premières. La deuxième, elle y va. Et bizarrement, aller chercher la lumière, et au moment qu'elle accepte, le père retrouve la vue. Hein ? On est vraiment dans un espace. Qu'est-ce qui va se jouer derrière ? C'est que la lumière, pour la trouver, ça ne peut pas se faire en 3 jours. Ça demande du temps. Et voir quelque part en tant que tel, ben, c'est interdit pendant 7 ans. Bon, pareil, 7, chiffre cyclique, etc. Le château. Le château qui est pour moi toujours important. Le château, ce n'est pas un lieu de la maison privée, le château. Le château, c'est un lieu de la création d'une société. Si vous mettez une maison, oui, c'est la famille. Dans un château, c'est autre chose. Et là, il n'y a personne, sauf des voix. Il manque de rien. Tous les jours, le repas est prêt, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, Cocteau avait très bien senti cet espace-là dans cet espace d'apparition constante d'éléments, mais qui ne sont jamais perceptibles. Pas. Donc, c'est des espaces qui sont extrêmement forts au niveau. Donc là aussi, c'est comment, quelque part, pour voir, il faut savoir des fois se mettre à l'écart. Trop voir, ça empêche de voir. Hein? Donc cette notion de l'isolement aussi qui est en jeu. Mais pas, il ne parle pas de l'isolement social, il parle. Comment, quelque part, on se retrouve soi dans cet isolement en tant que tel. Hein, voilà. Et donc, cette pulsion retenue, j'ai quelqu'un à côté de moi, c'est un beau jeune homme, mais il y a une épée entre les deux. Ou attendre. On n'est pas dans le... C'est complètement une question pour moi de qui se pose beaucoup aujourd'hui, qu'on aura peut-être besoin d'analyser, c'est la relation à l'intime. Qui a été extrêmement un cadre de référence pendant des siècles, et aujourd'hui on est sur l'extime. Aujourd'hui, c'est vraiment remettre tout ce qui est intime à la portée de tout le monde. Regardez toutes les réseaux sociaux, tout le monde s'expose, tout le monde est en espace. Voilà. Donc il y a un changement de relation à cet espace privé qui est questionné dans ce compte-là. C'était cette notion de la relation. Donc, pareil, pour être devenu corbeau, hein, être devenu, c'est pas rien. Il y a beaucoup de versions où on explique au début de l'histoire pourquoi le héros est devenu ce qu'il est. Donc, on n'a pas cette attente. Hein. Là, on le sait uniquement dans le château. Bon, il a été transformé par un sorcier ou par une sorcière, selon les versions. Hein. Mais en tous les cas, on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est extrêmement important aussi, cette notion de ne pas savoir pourquoi dans les contes. Si vous commencez à y mettre, vous, une justification trop claire, vous re-rentrez dans la pensée sociale. Vous n'êtes plus dans la pensée intérieure. On est toujours dans cet endroit où moi j'essaie de privilégier en tous les cas les images qui posent questions et pas celles qui donnent des réponses. Dans les contes merveilleux, je m'entends, hein. Je serais dans les contes facétieux, ça serait le contraire. Ils sont faits pour exprimer justement le côté-là. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Ben, elle va trouver cette fameuse lavandière. Elle en pose des questions, ça. qui lavent des chemises noires en permanence et qui n'arrivent jamais à les nettoyer vraiment. La nuit, hein, la nuit, le jour, l'obscurité, pareil, on est toujours dans cette sensation de... Ça questionne beaucoup le voir, le trop voir et le pas assez voir. Cette partie-là du conte, en tous les cas. Voilà. Et donc, quand elle arrive, immédiatement, les chemises deviennent blanches. Promesse du jour qui doit revenir. Hein, promesse de la retransformation. Et elle ne la revoit pas jusqu'au moment, en fin de compte, où son époux est reparti parce qu'elle a transgressé. Jusque-là, elle ne le voit qu'une fois, cette lavandière. Elle ne va pas y retourner. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Elle va lui donner les clés pour aller retrouver son époux. C'est elle qui lui donne tous les éléments pour prendre la bonne direction. On a la fameuse image des sabots de fer, des chaussures de fer, qu'on retrouvera pour la prochaine fois dans le petit chaperon rouge. Donc les chaussures qui ne s'usent pas, qui s'usent difficilement. Donc on verra dans le petit chaperon rouge, c'est plus un inconvénient. Là, c'est plus une possibilité d'avoir des chaussures qui vont tenir le choc sur le cheminement. Et donc, toujours le passage sur l'autre monde, systématiquement, comme dans tous les contes merveilleux, d'ailleurs, si on regarde bien. Il n'y a pas un conte merveilleux où on ne passe pas dans l'autre monde. On en revient, mais on y va, en tant que tel. Et donc, ce questionnement sur la mort aussi, sur l'autre côté, systématiquement. Et donc, les chemins sont toujours difficiles. Il y a plein d'erreurs, il y a plein de rencontres, il y a plein d'éléments difficiles, il y a plein de... Ouais, et donc là, on a les plantes, hein, ces fameuses plantes qui chantent. Bon, il y en a une qui chante, mais il n'y a rien, qui ne casse rien, il y a une autre. Voilà, donc, chacun a le sens d'éléments, mais elle demande à être respectée dans le cheminement. Ne me cueille pas, ce n'est pas moi. Je ne pourrais pas aller... Hein. Donc, il y a vraiment tout un cheminement comme ça où il faut savoir entendre aussi ce qui est posé. Et la libération, bizarrement, l'époux est gardé par deux loups, un blanc et un noir. Donc pareil, toujours cette dichotomie entre le jour et la nuit. Donc pour moi, ça me fait travailler ce conte-là systématiquement, toutes mes oppositions intérieures, entre l'obscur, entre le trop voir, entre tout ce qui est la pulsion, entre tout ce qui est ma pulsion de vie, ma pulsion de mort, entre tout ce qui est... Donc c'est quelque chose, quelque part, qui met au travail. Et pour moi, un conte merveilleux qui ne met pas au travail, il n'a pas raison d'être. Ce n'est pas un lieu de la distraction. C'est un lieu qui peut être plaisant. Ça n'empêche pas que ça soit plaisant. Ça fait partie des qualités essentielles du conteur. Mais en même temps, ils ne sont pas faits pour être distractifs. Ce n'est pas un lieu de la distraction. C'est un lieu du travail, de la mise au travail d'une communauté. Sur des grands cadres qui sont fondateurs pour elle, la plupart du temps. Alors voilà ce que je peux en dire, le temps passe en vite, donc on va peut-être passer s'il y a des questions, aux questions et puis aux questions-réponses.
J'ai une question en ligne sur les références de Muscambre.
Alors Muscambre, vous le retrouvez dans la conte de la nuit grecque. Voilà. Donc là, il y a plusieurs muscambres aussi. Hein. Vous verrez, il y a plusieurs versions. Voilà. Mais en tous les cas, en Grèce, cette notion de fabriquer son mari, c'est quelque chose qui est très répandu. Voilà, c'est. Il est aussi des Belles et des Bêtes. Bon, voilà. Et vous avez, je vous mettrai tout ça en ligne. Il y a un article magnifique sur une revue anthropologique qui s'appelle L'Homme, d'un Angelopoulou. Sur une analyse de Muscambre, justement, le fait un travail, le travail comparatif que vous avez là, il est dans cette revue-là. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi de temps en temps d'avoir des personnes comme ça qui sont des polyvalents, hein, parce que Anna Angelopoulou est vraiment une anthropologue qui a fait d'ailleurs un autre bouquin, voilà, c'est la classification internationale du conte grec. C'est quelqu'un qui a été une référence en tant que telle. Voilà, donc, quelque part, il y a quand même quelqu'un qui a une référence sur l'anthropologie du conte, et en même temps qui est psychanalyste, et qui a un regard bienveillant sur le néocontage depuis bien longtemps. Voilà, donc, en même temps, elle est très présente dans beaucoup de colloques, une grande complice avec Nicole Belmont. Voilà. Donc, c'est aussi des références comme ça qu'il faut avoir dans la tête, parce que c'est des gens qui ne sont pas enfermés dans leur milieu, qui restent des éléments ouverts, mais qui proposent des analyses tout à fait passionnantes. Il y a un autre article qu'elle a écrit dans une revue que vous retrouverez aussi en ligne, sur une revue qui s'appelle Topic. Voilà. Donc là aussi, vous avez une très très belle analyse, mais là plutôt psycho, mais pas du psycho hermétique. Le psycho qui reste très ouvert sur une perception claire des choses. Donc les références, voilà, il y en a plein. Pensez que dans le De la Rue, il y a déjà 130 versions de recensées, les versions plutôt francophones et françaises. Voilà. Et que quelque part, après, vous avez un accès de toute façon qui est assez facile aussi aujourd'hui avec le fameux site que je vous donnais la dernière fois qui s'appelle Le Merveilleux, qui est le site de l'EHESS. Vous avez toutes les versions disponibles. On en avait parlé, je crois, lors du premier ou du deuxième séminaire. Donc ça, c'est vraiment une reprise du De la Rue, mais qui reste vivante, parce que quelque part, chaque fois qu'il trouve d'autres versions, il les rajoute. Et ces versions sont disponibles. On peut les charger, ou en PDF, ou en Word, mais quelque part, là, vous avez quasi toutes les versions. Donc aujourd'hui, dire qu'on ne trouve pas les versions, moi, j'y crois plus, parce qu'il y a énormément d'outils pour les trouver. Le Conte Merveilleux, alors je ne sais pas, je n'ai plus l'adresse exacte. Mais éventuellement, je vous le mettrai en ligne. Je pensais qu'on l'avait déjà posé, mais si ce n'est pas le cas, je vous la remettrai, cette adresse. D'autres questions? D'autres réactions? Vos propres? Oui? Alors, c'est moi qui coupe le micro, hein, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Ah. Ouais. Quand tu disais.
Attends, merci. Tu as coupé, Marc? Non, ça fait de l'écho. C'est bon?
Je suis coupé. C'est bon? Quand tu disais que le conteur reprenait le mythe.
Baisse ton son. Ouais.
Oui. Ça sous-entendrait que le mythe est premier? Comment ça se passe? Parce que tu dis le conteur reprend les archétypes du mythe.
Attends, là, ça fait trop d'écho. Excuse-moi, Yacine, mais. Il faut couper le. Voilà, et le son. Impeccable.
Quand tu disais que le conteur reprenait les archétypes du mythe et qui pouvait les inverser pour questionner ce qui était dogmatique dans le mythe, ça sous-entendrait plus ou moins, ou en tout cas c'est ça que je voulais te demander, que le mythe est premier, que le conteur arrive ensuite. Et qui va reprendre le matériau du mythe pour faire le conte. Mais il semble aussi que tu disais que, en tout cas avec Apulée, qui lui, la première interprétation du mythe, lui en fait il récupère le conte. Donc finalement, comment est-ce que se passe l'articulation entre les deux?
Bon. Il faut repartir de Claude Lévi-Strauss, qui dit très bien dans les mythologies, je crois que c'est dans le premier volume, qui explique très bien que le conte n'est pas une dégradation du mythe, mais une autre façon de lire le mythe. C'est une façon beaucoup plus populaire, beaucoup moins dogmatique, beaucoup moins religieuse et sacrée, en fin de compte. Voilà. Mais c'est évident que dans la plupart des sociétés, le mythe est un peu premier, puisqu'il est une façon de structurer la pensée. C'est une façon de se représenter l'irreprésentable, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est... voilà. Donc tout ça, c'est des espaces qui sont des références sociétales qu'on vit plus qu'on ne les comprend la plupart du temps. On est aujourd'hui, nous, dans le mythe. Hein. On vit dans le mythe judéo-chrétien depuis déjà bien longtemps. Voilà, et on en est complètement imprégné de ça, qu'on soit laïque ou qu'on soit croyant. On est complètement dedans, hein, voilà. Donc là aussi, on est, mais quelque part, donc les grandes figures que les conteurs reprenaient étaient systématiquement inspirées de ces cadres-là. Après, est-ce qu'ils étaient plus ou moins savants sur ce que le mythe disait? Est-ce qu'ils étaient plus proches d'une transmission? Est-ce que c'était eux-mêmes des transmetteurs du mythe? Ça, c'est encore autre chose. Hein, voilà. Mais en tous les cas, pour moi, la plupart des contes merveilleux, quand on les travaille un petit peu, on s'aperçoit qu'ils sont nourris par des grandes figures archétypales mythiques. On pourrait faire du tissage systématiquement. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais...
Il y a deux autres questions.
En ligne. Donc, je te les pose. J'ai coupé, c'est bon, impeccable. Alors, il y a Patrick Séris qui demande, à partir du moment où la plupart du temps le public vient se distraire, comment présenter un conte merveilleux qui, lui, a pour vocation de le faire se questionner ? Faut-il un sous-titre sur l'affiche qui précise « Attention, non-spectacle » ?
Alors, justement, pour moi, c'est... quand on est conteur, on est menteur. Hein. Donc, on invite les gens à venir se distraire, mais on ne leur dit pas de quelle façon. C'est-à-dire, quelque part, je crois qu'il faut être manipulateur un petit peu, surtout aujourd'hui, où on a des attentes qui sont un petit peu conformes en tant que telles. Hein. Donc, on peut très bien avoir un conte très, très jouissif au niveau public, amusement, sur un premier temps, pour se mettre en contact, et puis glisser petit à petit sur quelque chose qui va peut-être être plus profond. Et je pense que tout le monde en est satisfait à terme. C'est pas, pour moi, on ne sort pas d'un conte merveilleux avec une gueule de 3 mètres de long. Et, on sort simplement troublé, souvent. On a fait souvent l'expérience, nous, ici, en programmation, quand on a vraiment un conteur qui vraiment rentre dans le merveilleux, on s'aperçoit que les gens ne s'attardent pas trop en discussion derrière. Parce que ça les a tellement touchés, ils n'ont pas envie de partager ça, c'est trop sensible. C'est pas qu'une âme d'enfant, je pense qu'il y a... Enfin, ça dépend comment on l'entend, cette âme d'enfant. Voilà. Oui, j'ai le son peut-être. Là, c'est bon, on entend. Est-ce qu'on entend? Oui, non? Oui, ça y est, ça marche. Oui. Donc, on parlait de l'âme d'enfant. Écouter les contes avec une âme d'enfant, c'est plutôt écouter le conte, je veux dire, sans analyse dans la tête. Et la plupart de vos contes, d'ailleurs, ils sont construits comme ça. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en motif choc au départ. Ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas important, ce motif-là, mais on a regardé Cendrillon et puis Codane la dernière fois. Pour moi, le motif de l'inceste va vous déconnecter de l'analyse, parce que c'est émotionnellement fort, mais vous allez écouter tout le reste qui est essentiel du conte, c'est le cheminement et l'initiation de la jeune fille, sans être, parce que vous restez dans cet état de... Hein, voilà. Et c'est très important pour moi, cette mise en... Comment dire, ouais, cet endroit du lâcher-prise. On n'est pas loin du système de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Hein, on est dans ce même principe, dans le conte merveilleux, en tous les cas. On cherche à ce que les gens, en face, ne soient pas dans une analyse et une vigilance. Il faut lâcher. Donc c'est pour ça que souvent les conteurs commençaient par des facéties ou des choses comme ça aussi pour faire tomber un petit peu l'appréhension. Et puis après, ça permettait petit à petit de glisser vers des choses beaucoup plus intéressantes. Et il y a des soirées dans les traditions où ça ne marchait pas. Le conteur, il était là, mais il sentait très bien que l'écoute n'était pas bonne, ce n'était pas la peine de se lancer dans un conte merveilleux. Quoi. Il n'aurait pas été entendu au bon endroit, donc ce n'était pas la peine de le raconter. Donc, il continuait à raconter des facéties. Donc, il y a tout un espace, mais ça serait tout notre travail, pour moi, de dispositif aussi. On ne peut pas amener dans une salle comme celle-là le conte merveilleux. Pour moi, il va être costaud pour le faire passer. Il faut qu'il y ait aussi un espace de sacralisation au sens laïque du terme du lieu. Il faut qu'il y ait un dispositif en même temps qui soit un peu proche du rituel, pas uniquement, voilà. Même si le conte a en lui-même déjà une puissance pour y aller, mais on perdra de l'efficacité si il faut gagner. C'est compliqué après. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a du mal, hein. Parce qu'on est justement quelqu'un de demander sur le côté spectacle. Pour moi, c'est difficile de mettre un conte merveilleux en spectacle. Ça demande vraiment tout un travail, mais tu nous en parleras Claire, peut-être. Voilà. Il y a tout un travail de réflexion sur comment je fais en sorte que sur scène, je sois malgré tout non pas en frontal, mais dans le cercle. Comment je peux créer cette intimité. Donc c'est un endroit où le théâtre peut nous perdre. Vous voyez ce que je veux dire? En tant que transmetteur. Faire attention, il y a des codes qui paraissent proches entre le théâtre et le conte qui, pour moi, sont très différents. On n'est pas sur le même dispositif. On n'est pas sur les mêmes intentions non plus.
Oui.
Comme on parle beaucoup du conte et du mythe, là tu parlais de la manière dont on peut transmettre un conte et en tout cas la manière de sa mère en travail, dont sa mère en travail. Est-ce que dans le mythe, il y a ce même travail qui est engagé? C'est qu'on ne le raconte pas de la même façon, puisque ce n'est pas un conteur qui va raconter un mythe. Il ne se raconte pas tout le temps, il se raconte peut-être à des moments particuliers. Il y a peut-être des tabous aussi qui sont liés au mythe. Mais est-ce que ça met. Est-ce que le matériau qui est utilisé par le conteur pour l'inverser ou le questionner, est-ce que le mythe, ça met en travail de la même façon?
C'est une question qui demanderait des journées de réflexion, mais en tous les cas, ce qu'il faut bien penser, c'est que le mythe n'était pas raconté systématiquement à tout le monde. Il était en général quelque chose de l'ordre du sacré, donc raconté aux grands initiés ou aux initiés, systématiquement. Donc, c'était déjà un espace, mais quelque part, il se répercutait dans des façons d'être de la société, qui sont structurants, dans les façons de penser. Donc, déjà, pour moi, le mythe, il était plus raconté dans de la ritualité, d'une certaine façon. Il y a des moments qui étaient vraiment consacrés à ça. Après, le problème aujourd'hui, c'est que c'est devenu un lieu de culture. Ce n'est plus un lieu de croyance ni de rituel. Donc, on est dans une dégradation dans ce sens-là. La façon aujourd'hui de poser le mythe est plus un lieu de l'intellect, ou de la philosophie, ou de la pensée, alors qu'à l'époque, c'était un lieu de croyance. Tout le monde ne racontait pas les mythes. Il fallait être déjà un personnage consacré. C'est-à-dire que c'est vraiment des grands initiés qui racontaient les mythes. Ce n'est pas n'importe qui. Il y avait même des interdits. Donc on en retrouve des quantités de rituels de cette. Et en même temps, on ne racontait jamais la totalité du mythe. Le mythe était très basé sur du calendaire. Il y avait des moments où on racontait tel mythe, des moments où on racontait tel autre mythe. Donc, c'était vraiment des espaces aussi qui étaient très reliés à une perception, en fin de compte, des cycles cosmiques et autres. Donc, ce n'était pas non plus un espace qui était... Et les seuls qui connaissaient vraiment le mythe dans sa totalité, c'était les grands initiés. Donc, le conteur, lui, il ne va pas se mettre dans ce dispositif, si ce n'est pas son rôle aujourd'hui. Mais lui, par contre, dans sa connaissance qu'il en a, il peut réinterroger ce que le mythe a mis en prégnance avec un public. Il peut interroger en même temps ce que le mythe a enquisté parfois dans la pensée. Il peut s'amuser à jouer avec les dogmes que le mythe a laissés. Si on pense sur la pensée judéo-chrétienne, par exemple, avec Apulée, je veux dire, si vous regardez bien, il est en train de nous dire des choses qui sont très transgressives par rapport à la croyance romaine du IIe siècle, où la chrétienté s'installe, où il y a une espèce de rigueur dogmatique. Il est en train de nous parler de choses là qui sont quasi inaudibles par l'Église. Donc, et même temps, voilà, c'est vraiment, et même temps, on s'aperçoit que saint Augustin, mine de rien, puisait aussi dans reculer pour monter des. Donc on est vraiment sur des espaces. Mais pour moi, le conteur, c'est un peu le fou du roi. C'est un petit peu celui qui, et en particulier là, de façon très très profonde, qui re-questionne ce qui nous construit. C'est son boulot, quoi. C'est bon? On va laisser la place à Cléa. Donc, je laisse le matériel comme ça. J'enlève juste mon balai.
Je me mets la question. Tu peux juste marquer. on la voit pas.
Là, je me vois.
Elle est là, elle est là, je la vois là.
Mais il faut la voir. Il faut me cadrer.
En grand, c'est-à-dire.
Ah. Il faut cliquer dessus pour faire. Ah oui, d'accord, pour que je sois derrière là. Épinglé, c'est ça?
Non,
ok. Ben non, ça n'a pas marché. Tu veux dire épinglé?
Ouais.
Ah ben voilà, c'est ça, ça je peux le faire.
C'est moi du mail, il faut le cliquer là.
Après, c'est un Mac, moi j'ai pas de Mac.
Ouais, c'est pénible pour.
Alors, là, normalement, épinglé. Voilà.
Oui, super.
C'est bon au niveau du son, de l'image, du maquillage. J'ai pas assez de lumière. Où est l'éclairage, s'il vous plaît? Vers la gauche, comme ça?
Et non, si on met le projecteur, elle va être.
Donc, comme ça? Comme ça?
Il fait sinon ça va être.
Et comme ça, ça va?
Voilà, merci.
La star.
faut qu'on me voit quand même. Est-ce que à l'écran, ça paraît un peu sombre quand même, hein?
C'est mieux à l'écran. En fait, oui, si tu peut-être te décales un petit peu.
Ok. C'est bon, disent les gens. Je crois qu'ils s'en foutent qu'on paie, en fait. Hein. Ok. Alors, bonjour, bonjour à vous. Bonjour à ceux qui sont derrière leur écran. Je m'appelle Clélia Tavoilo. Je suis conteuse. Et je raconte cette histoire d'Eros et Psyché. Alors, comme vous l'avez demandé, je vais brièvement raconter la version d'Apulée. Donc, ça commence avec en Grèce, une fille d'un roi, la troisième fille d'un roi, qui a une beauté si extraordinaire que les mortels la prennent pour la nouvelle incarnation de la déesse de la beauté, Aphrodite. Et ils désertent le temple de la déesse, ils vouent le culte qu'ils vouent à la déesse, à cette jeune mortelle qui s'appelle Psyché. Et quand Aphrodite s'en rend compte, elle envoie son fils Eros pour qu'il fasse en sorte qu'elle tombe amoureuse du plus misérable des hommes, un mendiant, un lépreux, n'importe qui, qu'elle se débarrasse de lui au plus vite. Mais il se trouve que Eros, découvrant la beauté de Psyché si phénoménale, dans le texte, il est dit même qu'il pensait qu'une beauté pareille n'appartenait qu'au monde des dieux, qu'il en tombe lui-même fou d'amour, il se plante d'ailleurs la flèche dans son propre pied, il est pris à son propre piège. Et ensuite, du côté de Psyché, sa beauté ne lui attire que des problèmes. Enfin, en tout cas, ses deux sœurs, qui sont belles, mais pas autant qu'elle, se sont mariées et ont fondé une famille depuis longtemps, mais elle est seule, désespérément seule. Alors, son père, le roi, finit par se rendre au temple d'Apollon pour consulter les oracles. Et là, la sentence est terrible. On lui apprend qu'il doit donner en mariage sa fille à un monstre, à un serpent ailé. Et qui doit l'amener dès le lendemain sur un mont pelé en tenue de noces pour célébrer son mariage avec les ténèbres. Donc Psyché est livrée comme ça à cette destinée tragique et elle l'accepte avec courage d'ailleurs. Même c'est là où ce qui est intéressant, c'est qu'elle en veut à ses parents de s'être pris à la folie de l'idolâtrie par rapport à sa personne. Et Psyché croit aller à la mort, mais en fait, elle est emportée par un doux zéphyr dans un monde merveilleux où elle découvre un palais de rêves et une voix est là pour l'aider, pour lui apporter tout ce qu'elle veut. Et la nuit, alors qu'elle croit être dévorée par un monstre terrible, en fait, c'est un ange qui vient auprès d'elle la caresser et elle découvre les plaisirs de l'amour la nuit et le jour. Elle les passe seule dans son paradis. Mais ses sœurs finissent par lui rendre visite et se rendent compte que en fait, ce qu'elles pensaient être un terrible cauchemar est en fait un paradis merveilleux. Donc l'envie leur monte à la gorge et elles insufflent dans l'âme de Psyché, à l'oreille de Psyché, le doute. Et si c'était un monstre, souviens-toi des paroles de l'oracle, c'est un serpent ailé qui te rejoint chaque nuit. Mais enfin, tu ne peux pas, comme ça, dormir avec un inconnu, ce n'est pas possible. Et une fois qu'elles s'en vont, bien sûr, Psyché veut faire la lumière sur ce mari de l'ombre. Et il y a cette scène célèbre que beaucoup d'artistes ont reprise, où on voit la nuit Psyché avec une lampe à huile et un poignard s'approcher du lit fébrile, pensant découvrir un monstre. Et en fait, elle découvre le dieu de l'amour en personne, avec ses ailes dans le dos, son visage de juvénile, ses mèches dorées. Enfin, voilà, elle est stupéfaite. Mais elle est tellement stupéfaite qu'elle se penche comme ça et la lampe laisse tomber une goutte bouillante sur l'épaule de Marie qui se réveille. Et là, c'est la fin du rêve. Elle l'a trahi, parce que je ne vous ai pas dit, mais il y avait un pacte entre les deux. Elle ne devait jamais découvrir le visage de son mari. Il est trahi, il s'en va, il l'abandonne et commence pour Psyché une descente aux enfers. Comme l'a dit Marc, elle veut mettre fin à ses jours, et ça c'est une caractéristique de Psyché assez récurrente, côté un peu suicidaire. Chaque fois qu'elle a une épreuve, elle veut se jeter. Donc ça commence avec la rivière, et puis ensuite Pan, le dieu justement de la force de la nature, etc., et la ramène à la vie. Et puis ensuite, elle finit par se rendre à l'évidence qu'il faudra qu'elle se rende près d'Aphrodite elle-même. Et Aphrodite savoure sa vengeance et lui fait subir tout un tas d'épreuves. Ça commence par le tri des céréales, puis aller chercher la toison d'or, puis aller chercher à la source du Styx cette eau mystérieuse, dangereuse même. Et enfin, aller dans les enfers, ramener un baume de la beauté de Perséphone. Et il se trouve qu'à chaque fois, Psyché est tentée de baisser les bras et même de se suicider, encore une fois. Et à chaque fois, la nature lui vient en aide. La première fois, ce sont des fourmis. La deuxième fois, c'est un roseau qui lui souffle la solution. La troisième fois, c'est un aigle, et pas n'importe lequel, l'aigle royal de Zeus. Et la dernière fois, eh bien, elle est mise en garde par une tour. C'était vraiment un motif assez curieux. Je n'ai jamais vu dans un autre conte une tour qui, de sa voix d'oracle, la met en garde et lui dit exactement ce qu'elle doit faire pour ressortir des enfers. Et donc, Psyché, c'est la seule héroïne que je connaisse qui soit allée dans le monde des morts et en soit revenue vivante. C'est quand même intéressant comme figure féminine. Tout se passe bien, sauf qu'en remontant à la surface, elle croise son reflet en miroir dans un ruisseau. Et là, elle se rend compte que le temps a passé et qu'elle n'est plus aussi belle qu'avant et qu'elle va retrouver Eros, mais qu'elle ne peut pas le retrouver avec ce visage-là. Et elle fait ce qui lui était interdit. Elle a la curiosité d'ouvrir le coffret qu'elle transportait. Et bien sûr, en guise de baume d'amour, enfin de beauté, en sort une brume noirâtre qui la fait tomber inerte sur le sol. En gros, elle meurt. Et c'est Eros qui, de son côté, avait été fait prisonnier par sa mère, qui s'était rendu compte qu'il n'avait pas du tout obéi à ses ordres. Eros la retrouve et d'un baiser la ramène à la vie, puis la monte sur l'Olympe. Et là, elle voit l'ambroisie, elle est devenue déesse de l'âme, deux ailes frêles comme des papillons lui apparaissent dans le dos. Et elle donne la vie à l'enfant qu'elle attendait. Je ne vous ai pas dit, elle attendait un enfant. Et cet enfant s'appelle Volupté. Voilà. Comme l'a dit Marc, cette histoire, c'est la seule source écrite qu'on ait de cette histoire, je veux dire, d'après le livre d'Apulée, L'âne d'or. Et en effet, ce personnage, cet écrivain, cet orateur, ce philosophe qui est Apulée, il était totalement imprégné de la philosophie platonicienne et pythagoricienne aussi, notamment de cette théorie sur l'âme, l'immortalité de l'âme. Et donc, et puis aussi de tous les cultes à mystère, que ce soit les cultes à Isis, à Osiris, à Déméter, etc. Et donc, l'histoire qu'il a intégrée dans son roman L'âne d'or, on peut bien sûr supposer que ce n'est pas pour rien qu'il a intégré ce mythe à son histoire, et que cette histoire d'Eros et Psyché a énormément, énormément de couches et de couches symboliques, mystiques, enfin, des interprétations multiples. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver déjà à ce que ce soit clair pour moi et ensuite que je puisse en faire un spectacle, le donner à entendre cette histoire et que ce soit clair pour le public qui m'écoute. Donc pour ça, déjà, j'ai clarifié les personnages qui sont qui ont des valeurs mythiques, mais aussi des principes philosophiques. Pour moi, le premier personnage, c'est Aphrodite, la déesse de la beauté. Souvent, on dit qu'Aphrodite est la déesse de l'amour, mais il faut entendre le mot amour dans un sens très large. En gros, Aphrodite, c'est une déesse à la beauté solaire, dont on ne peut résister, à la beauté charnelle, à la beauté irradiante. Et donc, elle est associée à la sexualité, au désir de la chair, au plaisir de la chair, à la fécondité, à la vie. Donc, c'est pour ça qu'Aphrodite correspond aussi au printemps, au renouveau de la nature, à la montée de la sève. Et donc, elle est là pour maintenir parmi les hommes et les femmes un équilibre dans le monde. C'est l'époque de la fécondation, du renouveau, etc. Donc, elle a vraiment une importance dans le monde des vivants. Et il se trouve que cette mortelle Psyché, elle vient déséquilibrer cet équilibre divin, cet équilibre cosmique. Malgré elle, mais elle le déséquilibre. Alors Psyché, c'est intéressant d'étudier l'étymologie de ce mot. En grec, Psyché veut dire le souffle, l'âme. Et donc sa beauté à elle va être d'un tout autre ordre, même si il est dit que cette beauté est admirée par tous, qu'on l'apprend pour la nouvelle Aphrodite, ce n'est pas du tout le même style de beauté. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Là où Aphrodite est beaucoup plus physique, sensuelle, je voyais bien cette actrice italienne, vous savez, soit Monica Bellucci, par exemple, des actrices vraiment sensuelles pour Aphrodite, alors que Psyché, je voyais une beauté beaucoup plus émanescente de l'ordre de la fée, par exemple, de la libellule, quelque chose de plus extraordinaire, plus merveilleux. Cette Psyché, dans la version d'Apulée, elle est la fille d'un roi. Moi, j'en ai fait une fille de peuple, du peuple, fille d'un simple commerçant veuf. Je trouvais intéressant qu'on ramène cette fille à quelque chose de plus moderne, plus simple. Et donc, je vous ai parlé de sa beauté, donc du coup, de la manière dont j'allais la jouer, moi, moins incarnée qu'Aphrodite. Et à côté de ces deux personnages, il y a Eros. Eros, lui, dans l'étymologie du terme, c'est le désir amoureux. Et c'est dans l'histoire celui qui se fait l'intermède entre Aphrodite et les mortels, celui qui, de ses flèches et de ses flammes, réveille le désir. Aphrodite suscite l'envie, l'amour, et Eros est là pour que ça prenne parmi les mortels. La figure de Eros, à la base, dans la Grèce antique, était vraiment un dieu primordial. Il était, par Hésiode, dans la Théogonie, associé aux trois entités primordiales. Il y avait d'abord le chaos, ensuite Gaïa et Eros, le désir. Donc, on voit que c'est une force vitale. On voit qu'il est à la base de tout. Et qui parmi vous n'a jamais senti que le désir amoureux était capable de tout bouleverser, de tout transformer, de tout réanimer. Donc, il est à la source de tout. Et Platon, par exemple, dans le Banquet, nous explique que c'est plutôt, enfin, il le considère plutôt comme un daimon, comme je vous ai dit, un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et Psyché également est plutôt de cet ordre-là. Psyché, elle est représentée avec des ailes de papillon et comme l'a dit Marc, elle est souvent associée à la mort. Alors, enfin, en tout cas, elle est très liée à la mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion chez les platoniciens justement de l'immortalité de l'âme. Le corps est éphémère, mais l'âme subsiste. Et souvent dans les tombeaux qu'on a retrouvés des Grecs et des Romains, il y avait quelquefois des représentations de Psyché qui représentaient l'âme du mourant qui lui allait continuer son voyage même après la mort du corps. Et cette histoire d'Eros et Psyché, me semble que ça raconte la traversée de cette âme, cette fille même, qui, à travers l'amour, est amenée à se dépasser, à se transfigurer même. Et alors, c'est marrant parce que souvent, à la fin de mon spectacle, il y a des personnes qui me disent « Ah, bah, c'est chouette, c'est là. » C'est pas souvent qu'on entend un mythe grec qui se finit bien. Et en fait, même si je ne le dis pas ouvertement, en fait, à la fin de l'histoire, elle meurt, Psyché. Et c'est Eros qui, d'un baiser, la mène sur l'Olympe, qui symboliquement représente la vie après la mort, l'au-delà. Mais je ne le dis pas ouvertement. Mais c'est vrai que c'est qu'une fois qu'elle a touché au monde des morts, qu'elle peut accéder enfin à la volupté, à l'amour sublime, divin, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des notions philosophiques qui sont très, 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 très larges et qui, je crois qu'il faut toute une vie pour en comprendre vraiment le sens. Je ne dis pas que je suis arrivée à tout comprendre, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire sens sur les notions qui sont en jeu dans cette histoire. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir que Psyché, je vous ai dit qu'elle avait cette tendance à baisser les bras, à vouloir renoncer dès qu'il y arrivait un problème. Et ça, pour moi, je trouvais ça un peu trop lourd à porter. Puis je trouvais ça pas intéressant au niveau de l'histoire, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, elle veuille se mourir. Donc, j'ai fait en sorte d'aller dans le texte chercher les endroits où on voit qu'elle a du courage et moi-même redonner un peu de force au personnage. Et donc, comme je vous ai dit, les parents, enfin, dans l'histoire, dans la version d'Apulée, il y a des parents, dans ma version, il n'y a que le père. En tout cas, quand les parents se désolent du message de l'oracle, elle accepte son sort, elle est vraiment digne. Et elle dit, ben non, c'est trop tard maintenant. C'était quand vous me preniez pour la nouvelle Aphrodite qu'il fallait vraiment vous réveiller. Maintenant, c'est trop tard et on y va. Et donc, elle accepte son sort. Et elle a une dimension vraiment sacrificielle à ce moment-là, un peu comme un personnage tragique. Et elle sait qu'elle va mourir et elle y va, quoi. Et donc, elle fait ça pour le bien du collectif, il me semble. Il se trouve que quand elle est sur ce mont Pelé et qu'elle va pour se jeter dans le vide, parce qu'à quoi bon attendre la mort, quoi, autant y aller directement. Et là, elle est emportée avec délice par ce zéphyr qui lui chatouille, qui l'emmène avec douceur au-delà des nuages dans un palais merveilleux, et que là, tout n'est que merveille et délice autour d'elle, et qu'elle va de salle en salle, et qu'elle va de plaisir en plaisir. En fait, elle est dans ce moment qu'on a peut-être tous connu, nous, quand on est au début de la relation amoureuse et qu'on vit dans un rêve, quoi. Tout peut nous arriver. On flotte au-dessus de la terre, quand on est sur un nuage. Vous avez tous connu ce moment-là. Ce moment merveilleux où tout peut nous arriver, tout est possible. C'est exactement ce que vit Psyché à ce moment-là, où elle est et qu'elle découvre cet être qui arrive dans sa chambre et qui, en fait, elle croit entendre un monstre, et il lui susurre de douces paroles et il lui caresse doucement la chair, et en fait elle découvre les plaisirs du corps. Et donc elle est comme ça jusqu'à ce qu'elle fasse la lumière sur son mari. Jusqu'à ce moment-là, elle est dans l'inconscience, elle est dans le plaisir, elle est dans la jouissance. Mais à partir du moment où elle fait la lumière sur son mari, où elle dépasse l'interdit, là, c'est la chute. C'est terrible. Et ça correspond aussi pour nous tous au moment où on a passé la lune de miel et là, il va falloir ramer pour que ça tienne le coup. Et donc, pour elle, commence la descente aux enfers. Mais cette descente aux enfers est nécessaire parce que elle se renforce, elle devient vraiment une héroïne de sa vie. Elle, Aphrodite se régale de la mettre à l'épreuve et elle n'en revient pas que Psyché réussisse à chaque fois. Et ce qui me tenait à cœur de dire, c'est que il aurait été très facile, et j'ai eu cette tentation en prenant cette histoire, d'en faire une version manichéenne, puisqu'on pourrait très vite se dire, bon ben voilà, c'est facile, il y a la méchante belle-mère Aphrodite qui, dans le texte d'Apulée, est absolument affreuse. Je veux dire, quand Psyché arrive dans son palais, elle la prend par les cheveux, elle lui donne des coups de pied dans le ventre alors que Psyché est enceinte, puis elle fait venir ses deux servantes Tristesse et Chagrin pour la tirailler. Donc on pourrait vraiment se dire, bon, mais voilà, c'est comme dans un conte merveilleux, c'est la méchante belle-mère, la marâtre, qui met à l'épreuve sa bru. Et basta, ça s'arrête là. Mais si on veut aller un peu plus loin, eh bien on se rend compte qu'en fait Aphrodite, c'est une initiatrice, c'est la déesse de l'amour qui met à l'épreuve celle qui a voulu prendre sa place et qui lui dit, ah bien, tu veux aimer un dieu et pas n'importe lequel, mon fils, tu veux toucher à la divinité, eh bien montre ce que tu as dans le ventre et voyons ce que tu sais faire. Et il se trouve que Psyché parvient à chaque fois à réussir les épreuves que Aphrodite lui donne, mais vous qui m'écoutez, vous savez qu'elle y parvient grâce à des aides surnaturelles qui, on le sait, sont en fait le souffle d'Eros, qui dans l'ombre continue à venir en aide à celle qu'il aime. Ce que je ne vous l'ai pas dit, mais une fois que Eros est blessé à l'épaule et qu'il a abandonné Psyché, en fait, il retourne auprès de maman. Et maman, je peux vous dire qu'elle le reçoit, mais alors chaudement, hein, elle l'enferme dans son palais, elle fait venir Sobriété, qui lui coupe le bout de ses mèches, qui lui coupe le bout de ses ailes, qui lui coupe le bout de ses flèches, l'enferme à double tour, et il est enfermé comme un vilain petit garçon dans sa chambre et il ne doit plus en sortir. Mais même dans l'ombre, il continue quand même à agir auprès de Psyché pour qu'elle puisse grandir. Et il se trouve, et c'est ça qui est curieux, qu'elle n'arrivera à retrouver cet amour qu'une fois qu'elle aura passé par la mort, qu'elle sera passée par la mort. Donc il y a dans l'histoire une description vraiment intéressante de la descente dans le royaume d'Hadès, avec tous les personnages qu'on retrouve dans la mythologie, que ce soit Charon, le passeur, le chant des lamentations, Cerbère, les deux dieux que sont Hadès et Perséphone, qui sont eux aussi là comme un peu complices d'Aphrodite. Et donc Psyché doit aller chercher le baume de la beauté de Perséphone, qui est en fait un piège de la part d'Aphrodite. Bon. Et donc, je vous l'ai dit, une fois qu'elle ouvre ce coffret et qu'une brume noirâtre en sort, elle meurt. Et ce n'est que dans l'Olympe qu'elle retint. Ce n'est qu'une fois qu'elle aura passé par la mort qu'elle retrouvera enfin cet amour sublime, cet amour divin qu'elle a recherché pendant tous ces longs mois. Puisqu'on a quand même une dimension temporelle de cette histoire, étant donné qu'elle est enceinte. Voilà. Je regarde le temps, excusez-moi, je crois que je suis arrivée presque au bout de mon temps. Ce qu'il me semble aussi dans cette histoire, c'est que il y a trois clés fondamentales, enfin clés, trois éléments qui sont questionnés dans l'histoire. C'est à la fois l'amour, la beauté, puisque rappelons-nous que dans la Grèce antique, la beauté avait vraiment une valeur fondamentale, d'un point de vue l'esthétique, mais aussi philosophique. La beauté permettait à l'âme de s'élever. Et dans l'histoire, la beauté est présente partout, que ce soit celle d'Aphrodite, celle d'Eros, qui est le plus beau des dieux, et celle de Psyché, qui est la plus belle des mortels. Donc il y a la notion de beauté qui est là. C'est à la fois la beauté du corps, mais la beauté de l'âme aussi. la notion d'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Moi, j'ai découvert cette histoire, j'étais toute jeune. Et je ne savais pas vraiment ce que c'était l'amour. Je croyais savoir, mais bien entendu, je ne savais pas du tout. Et j'avais envie de raconter cette histoire, mais je sentais que ça me dépassait totalement, que je n'avais pas les clés nécessaires, que je n'avais pas en fait l'expérience de vie aussi pour raconter cette histoire. Donc, elle est restée en jachère en moi pendant une quinzaine d'années. Et ce n'est que quand j'ai rencontré mon Eros que j'ai pu vraiment raconter cette histoire. Et bon, bien entendu qu'il y a eu un travail d'identification au personnage, et bien entendu que la traversée du désert qu'a vécu Psyché, je sais de quoi elle parle, et la descente aux enfers, etc., je sais de quoi elle parle, mais cette identification, je crois qu'elle a été nécessaire pour moi, pour raconter cette histoire. Voilà, donc je vous ai dit la beauté, l'amour, et puis la mort. Comme tu l'as dit, Marc, la mort, n'oublions pas que Eros et Thanatos, donc le désir et la mort qui s'opposent et en même temps se rejoignent, et Psyché frôle en permanence avec la mort, mais que ce soit la mort symbolique ou la mort du corps, la mort est là en permanence. Quoi. Voilà. Et pour terminer, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Marc au niveau de la dimension spectacle des histoires qu'on raconte. Pour moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je raconte. Et je dois avouer qu'au début, quand je racontais, j'étais hors sol complet. Et au fur et à mesure, avec le temps, l'expérience de vie aussi, de femme, je suis redescendue dans mon corps. Et pour moi, aujourd'hui, raconter ne va pas sans l'expérience du corps. Donc, quand je commence une histoire, si je prends l'histoire de Psyché, Eros et Psyché, bien entendu que les personnages, je me suis questionnée sur comment ils sont, comment je pourrais physiquement les incarner, quelle démarche, quelle voix, quelle attitude, quelle émotion, enjeu. Et pour moi, je ne peux pas ne pas passer par ça pour raconter l'histoire. Et donc, il y a peut-être une dimension théâtrale dans ma manière de raconter, mais en fait, je m'en moque. Moi, à partir du moment où je fais voyager les gens dans l'histoire, peu m'importe la technique qu'on utilise, quoi. Je veux dire, des clowns, des comédiens, des conteurs, on est tous... Il me semble que tous les artistes ont quelque chose de l'ordre du conteur. En tout cas, tous ceux qui racontent des histoires, et peu importe les techniques qu'ils utilisent. Voilà, moi, j'utilise donc une dimension plus incarnée pour raconter l'histoire, mais il y a des personnes ici dans la salle qui m'ont écoutée. Je ne crois pas que ça vous ait empêché de suivre cette histoire. Voilà, et pour terminer encore, je vous dirai juste que je raconte cette histoire samedi soir au Jardin antique de la Méditerranée à Balaruc, et que c'est à 20h30, vous êtes tous et toutes invités. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Ah oui, pardon, je profite aussi de ce temps pour vous montrer les bouquins qui m'ont servi. Alors, bien entendu, tous les ouvrages de Anna Angelopoulos ont été des mines d'or. Ça, vraiment, c'était essentiel pour moi, que ce soit ses articles. Elle a fait un article sur Eros et Psyché. Elle a fait un article sur Muscambre également. Et puis, les contes de la nuit grecque. Il y a aussi le travail de Marie-Louise von Franz, donc, qui était une... on ne voit rien, mais bon. Qui était une... je veux dire, elle était une Jungienne. Elle travaille aux côtés de Jung. Et c'est elle qui a pris sa suite une fois qu'il est mort, que le maître est mort. Et elle a appliqué les préceptes de Jung sur les rêves au conte. Et donc, elle a étudié l'Andor, qui est l'histoire dans laquelle on a trouvé le mythe d'Eros et Psyché. Donc, elle étudie toute la symbolique du mythe. C'est très intéressant, à la fois de l'ordre psychanalytique, d'un ordre psychanalytique, mais aussi symbolique, mystique. Donc, c'est vraiment un puits de richesse. Et puis, il y a aussi ce bouquin, La Voix du Désir, avec la magnifique sculpture de Canova qu'on retrouve au musée du Louvre, qui représente le moment où Eros réveille d'un baiser Psyché de la mort. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Non, ça vous laisse sans voix. Alors, il faut que je fasse un truc, c'est ça? Je coupe le son? Je vais activer le son.
Juste à côté, voilà.
Ouais, mais j'ai...
C'est tout. Il faut que tu baisses le son de l'ordinateur aussi sur le clavier. Attends, ça. C'est bon.
Est-ce que je voulais savoir si tu avais abordé, moi j'ai vu le spectacle, j'ai beaucoup aimé, et notamment l'articulation aussi plus près avec les musiciens.
Oui.
Il y a notamment toute une dimension. Et je voulais savoir, est-ce que tu as abordé cette histoire comme un mythe ou comme ouais, donc, est-ce que ça a changé quelque chose ou que là, on parle un petit peu de ça parce que, quand tu le racontes, de quelle manière est-ce que, ou en tout cas quand tu l'as lu, de quelle manière est-ce que tu l'as reçu et quand tu l'as travaillé et finalement quand tu le joues. Bon, c'est vrai que personnellement, quand je l'ai vu, il y avait vraiment un mélange des deux, je l'ai vu, et j'ai pas mal vu cette dimension un peu mythe, mais après je sais pas comment est-ce que toi tu l'as perçu, travaillé entre ces deux, quoi.
Ben, en fait je dirais que
il y a un écho, c'est normal, okay. Je dirais que cette question là je me la suis posée au tout début quand j'ai commencé le travail d'étude, en fait, de la matière. J'ai toujours abordé ça de manière mythique, c'est-à-dire pour moi c'est un mythe. À partir du moment où il y a des dieux en jeu, je voyais ça plutôt de l'ordre du mythe. Mais que ce soit un mythe, un conte, c'est la même chose, c'est une histoire. Donc, en effet, j'ai pris en compte cette distinction entre le monde des dieux, le monde des mortels, et du coup les personnages divins qui apparaissent dans l'histoire. Si tu te souviens, dans mon spectacle, il y a un socle rond, circulaire, qui représente le monde des dieux, et à chaque fois que j'incarne un de ces personnages, je monte sur le socle. Donc c'était pour moi une manière de représenter cette distinction-là. Mais ouais, comme je l'ai expliqué, j'ai fait en sorte que tous ces personnages mythiques soient clairs pour moi et tout ce qu'il y a derrière, pour qu'ensuite je les raconte. Mais une fois que je suis sur